Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Il paraît que d'habitude, les ogres font peur aux enfants. Eh bien, ces ogres-là, s'ils adorent les enfants, ce n'est pas pour les dévorer tout cru, mais pour les faire voyager à travers les sons d'ici et d'ailleurs. Et ils le prouvent à nouveau à travers le quatrième des livres-disques, à travers lesquels ils partagent les aventures de Pitocha, un enfant de la balle, toujours prêt à découvrir les histoires, les musiques et les danses des autres, dans une atmosphère colorée et festive où se côtoient la fraîcheur juvénile et la chaleur humaine. Ces ogres-là, ce sont les cinq frères et sœurs Burguière, Alice, Fred, Mathilde, Sam et Léo. Pitocha et le vélo à propulsion phonique, le nouveau livre-disque des ogres de Barbac, est disponible chez Irfan et vous m'en direz des nouvelles.
En vertu des boîtes qui me sont conservées,
selon la dégustation des doigts de la pomme,
je déclare la séance ouverte.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, vous voici prévenus, veuillez vous éveiller, la sentence est rendue, vous pouvez respirer. La cour de Maracassation vous assigne à la prudence, après délibération du tribunal de grande danse, le monde vous condamne à l'humanité, l'avenir vous dédouane, vous devez respirer.
Vous faisiez la sourde oreille lorsque nous chantions à tue-tête de laisser les abeilles butiner sur la planète. Le verdict est tendu, c'est pour l'éternité. La scène est capitale, vous devez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, vous voici prévenus, veuillez vous éveiller. Le silence est rompu, vous devez respirer.
Bonjour Alice Burguière.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça fait du bien de respirer avec vous en cette période un peu morose? C'est vrai qu'il fait vraiment du bien ce disque. Il fait du bien aux enfants, il fait aussi du bien aux adultes. D'ailleurs, nous sommes tous des grands enfants, on est d'accord?
C'est ça.
Bon.
C'est un disque familial, c'est pas que
voilà.
Pour les enfants.
Voilà, absolument familial. Et vous, en parlant d'enfants, vous et les autres ogres, vous n'avez jamais totalement quitté l'enfance. On a vraiment l'impression d'une joie, d'un côté, oui, très très juvénile quand on vous entend et quand on vous voit sur scène.
En fait, effectivement, on a commencé le groupe, on avait à peu près 15 ans. Donc, et comme on n'a jamais arrêté, je crois qu'on n'est jamais sorti de nos 15 ans, ça doit être ça l'explication.
Mais comment on commence une carrière comme ça de groupe de musique à 15 ans? En fait, votre ADN est musical de génération en génération?
Oui, alors en fait, on a un père musicien et on a tous appris la musique étant enfant. C'est vrai qu'on est frères et sœurs, donc on a beaucoup joué ensemble, enfants, aux fêtes de famille, etc. Et du coup, le groupe, il est arrivé à 15 ans, bah, c'est l'âge où on commence à monter les groupes un peu, hein. C'est le lycée. Et puis nous, on a trouvé ça pratique de jouer entre frères et sœurs. C'était la salle de répète, elle était dans le couloir, entre les chambres. Donc voilà.
Alors c'est avec la voix d'Aldebert, parce qu'il y a plusieurs invités hein, sur le disque, on va y venir dans un instant. C'est avec la voix d'Aldebert qu'on entre dans cette quatrième aventure de Pitocha. Le personnage, il apparaît sur la couverture et on le retrouve à chaque double page de l'album grâce au dessin d'Éric Fleury. Alors physiquement, puisqu'on est à la radio, Alice Burguière, il ressemble à quoi Pitocha?
Pitocha, c'est un petit bonhomme tout rond, avec une tête toute ronde, il est tout jaune et en fait là sur ce dernier opus, il est sur son vélo. En fait, il est tout le temps en train de voyager. Donc le premier disque, il était sur les routes avec son chapiteau. Là, c'était pour vraiment présenter le personnage et son savoir-faire qui est de jongler avec les bruits. Et là, maintenant, il est avec un vélo, mais il est passé par le bateau, par plein de choses.
Alors comment il est né, ce personnage-là? Il est né en 2003, il a donc quasiment 20 ans.
Ouais.
Il ne les fait pas.
Non, il n'a pas vieilli, il n'a pas pris. Mais en fait, il est né à peu près au moment où nous-mêmes, on a eu des enfants, tout simplement. Donc on a toujours fait
des
chansons.
C'est ça qui a donné l'impulsion?
Oui, bah en fait, on s'en est rendu compte plus tard, mais c'est à peu près l'âge de la première de mes nièces. Et puis après, les autres ont suivi. Et du coup, c'est à peu près l'âge où on s'est mis à écrire des chansons aussi pour nos enfants. Et du coup, c'est cette époque où on a eu envie de faire ce premier album qui a plutôt bien marché, étonnamment. Enfin, en tout cas, nous, on était les premiers surpris. Et du coup, c'est là qu'on a décidé de continuer d'en faire d'autres.
Alors, Pitocha, c'est chapiteau en verlan. Vous avez déjà prononcé le mot de vous-même, d'ailleurs, Alice Burguière. Les ogres ont commencé, en fait, par le théâtre de rue. Hein. Il ne faut pas oublier, un chapiteau, quand on est gamin, ça fait tout de suite penser au cirque. Est-ce que Pitocha est un personnage de cirque?
Pitocha, c'est quand même un personnage de cirque. Nous, on aime beaucoup le cirque et on aime beaucoup surtout ce qui s'en dégage, c'est-à-dire la magie du fait d'être sous chapiteau, de voyager et d'inviter les gens chez nous alors qu'on est chez eux. Parce que notre chapiteau, forcément, on le déplace de ville en ville, donc on va chez les gens. Mais il rentre dans notre univers à nous. Et c'est ça qui nous plaît, c'est cette espèce de magie, cette ambiance qu'on arrive à mettre directement quand les gens rentrent sous le chapiteau.
Mais la magie dans un cirque, ça peut être celle d'un acrobate, ça peut être celle d'un dompteur, d'un clown, d'un jongleur. Pitocha, c'est un petit peu tout ça.
C'est un petit peu tout ça,
avec le son,
jongle,
comme...
justement, il jongle avec les sons. Oui. Il se trouve que Pitocha, quand même, il a grandi avec les ogres de Barbac et que nous, on est musiciens, on n'est pas trop acrobates. Donc voilà, c'est un personnage de cirque, effectivement, puisqu'il voyage sous son chapiteau, mais il est principalement musicien.
Alors, il est curieux, il aime découvrir le monde, il aime découvrir les gens, et notamment des gens qui s'expriment différemment, dans des langues différentes, avec des instruments de musique différents. Et sur cet album, il y a par exemple une tarentelle italienne, un tango argentin, il y a aussi une chanson qui me tient à moi particulièrement à cœur, puisque c'est un maloya qui me rappelle mon île, celle où j'ai passé toute mon enfance, l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, absolument, jusqu'à 18 ans, jusqu'au bac.
Hein,
et la chanson s'appelle « Kissaoulé ».
Tu as tellement voyagé. Viens là, assieds-toi, je t'en prie, raconte-moi. Ne pas effacer, non, ne jamais oublier. De l'autre côté, un monde abandonné. Là-bas, là-bas, c'est chez toi. Chez toi, c'est chez moi. Il y a de la place pour toi. Ici c'est ma vie, ton autre pays, te voici dans ta nouvelle vie. Là-bas, mon amour racine, mon casse d'un ravine, nana la place pour vous et moi. Ici, ici c'est mon vie, c'est mon autre pays, misère n'a point.
Saoulé, les ogres de Barbac dans VMDN sur RFI avec Marco Oriane et René Lacaille, grande famille de musiciens réunionnais, Alice Burguière. Comment est-ce que vous les avez embarqués, les Lacaille, dans cette nouvelle aventure pitochienne, si vous me passez
oui.
Le néologisme?
En fait, alors, les Lacaille, c'est une famille qu'on a rencontrée il y a quelques années déjà sur des concerts, tout simplement. C'est vrai que chaque fois qu'on invite des gens, c'est parce qu'en fait, on a eu un feeling et qu'on a bien accroché lors d'un concert. On rencontre plein de gens quand on fait des tournées comme ça. Et en fait, nous, on a aussi une vraie histoire avec la musique maloya. C'est une musique qu'on a découvert la première fois qu'on est allé à La Réunion, il y a quelques années déjà, et qu'on a vraiment adoré. Et notamment avec Daniel Waro, qu'on a rencontré, avec qui on a fait pas mal de chansons sur le Pitocha, deux ou trois, je ne sais plus. Et un jour, on a rencontré donc René Lacaille et on lui a dit « Mais alors toi, il faut absolument que tu joues sur un de nos albums. » Enfin, on adore ce personnage, on adore comment il joue, sa manière de voir les choses. Et donc, il nous a aidés, bon, évidemment, pour écrire le créole, toute la partie créole.
Oui, alors évidemment, il y a les paroles dans l'album en créole et il y a la traduction
voilà.
En français juste en dessous. C'est comme
il
ça
a
pour
fait
toutes
tous les
chansons.
Arrangements vraiment... aussi. Ouais, voilà, on aime bien traduire et puis tout écrire sur la pochette, comme ça les gamins ils peuvent aller Regarder
et chanter en même temps, évidemment, voilà, en écoutant aussi les artistes. Alors, on entend évidemment le cayambe, cet instrument incontournable de la musique réunionnaise, du séga et du maloya, que l'on secoue comme ça, avec à l'intérieur des graines qui produisent ce son qui rappelle un petit peu le bruit de la mer, le bruit des vagues. Ouais. Mais il y a plein d'autres instruments, et évidemment, d'un répertoire à un autre. Il y a toute la liste, d'ailleurs, des instruments à la fin du livret. Alors, plutôt que de la lire moi-même, j'ai demandé à Marcello, notre ogrillon à nous, en quelque sorte, puisqu'il est en classe de 3e, de la partager avec nos auditeurs.
Du piano, de la clarinette, de la flûte, du sous-bassophone, du tuba, de l'orgue, du violoncelle, de l'alto, de la contrebasse, du trombone, de la scie musicale, du térémine, du violon, de la trompette, du cor, du bugle, du pandero, du houdou, du banjo, de la mandole, du tresse, de la guitare, de l'accordéon, de l'harmonica, de la batterie, des percussions, du xylophone, de la boîte à meux, de la tempête, du klaxon.
Voilà, et merci à Marcello qui était en stage avec nous cette semaine et qui, de l'autre côté de la vitre, je le salue. Bon, ça en fait quand même pas mal d'instruments et encore il y a des points de suspension. Donc tous ne sont peut-être pas dans la liste. Vous-même, Alice Burguière, vous jouez de combien d'instruments ?
Alors moi, je suis à peu près au milieu dans tout ce qu'il vient de dire, entre, on va dire, le violoncelle en passant par la contrebasse et le trombone, et puis la scie musicale, térémine. Et voilà, diverses choses comme ça.
Donc à la fois des instruments à vent, des instruments à cordes. Vous êtes tous multi-instrumentistes dans la famille ?
Oui, en fait, on a tous un instrument quand même plus...
De prédilection ?
Ouais. De prédilection, qu'on maîtrise un peu mieux que les autres. Et puis après, on s'est tous un peu lâchés.
Mais comment vous avez appris sur le tas comme ça ? Vous avez fait le conservatoire ? Comment ça s'est passé ?
Oui, on a appris sur le tas. Alors, à la base, quand même, quand on était enfant, on a pris des cours de musique. Donc, certains au conservatoire, d'autres en école ou d'autres tout seuls. Mais un jour, quand on a monté le groupe, on a eu envie d'explorer plein de nouveaux sons, nouvelles ambiances. Et c'est là qu'on a commencé à fouiller à droite à gauche dans les brocantes ou dans notre garage, parce qu'il y avait plein d'instruments. Et on a rajouté des instruments au fur et à mesure.
Donc, c'est des instruments anciens ? Comment vous les trouvez précisément, ces instruments ?
Alors, notre père était quand même collectionneur d'instruments. Hein. On avait beaucoup de choses. On avait accordéon, guitare, quelques cuivres un peu farfelus, quelques vieilleries qui traînaient comme ça. La scie musicale, notamment, par exemple, moi, je l'ai trouvée vraiment, elle était accrochée au mur. Donc, je l'ai décrochée et j'en ai joué. Et après, il y en a plein d'autres qu'on a achetées comme ça, au fur et à mesure, selon les envies.
Bon, alors moi, ma guitare, elle est restée à l'île de la Réunion, figurez-vous. Mais je réfléchis, là, peut-être que je vais me mettre à la boîte à meux.
Oui,
c'est compliqué
facile
à apprendre, la boîte à meux. Donc, justement, c'est facile.
Il faut savoir où placer le meux, mais après,
oui,
ça,
c'est une question de poignée, quoi, j'imagine.
Oui, c'est
quand même important. Ouais. Bon, des instruments et des sons très différents, Alice Burguière. Comment on mélange tout ça pour faire quelque chose à la fois d'harmonieux et de cohérent sur toute la durée d'un album ?
Ben, en fait, tout l'album, c'est un voyage. Donc, effectivement, c'est compliqué d'être cohérent, mais nous, en fait, on ne s'interdit pas grand-chose. Donc, on part en voyage hein, quand on commence à écrire l'album. Et puis après, on va dire que chaque pays a quand même ses instruments de prédilection et on essaye de les mettre en avant. Donc là, effectivement, il y avait le cayambe, le rouleur et puis l'accordéon de René.
Rouleur, c'est le tambour.
Hein. Ouais. Après, sur le tango, bon, bah, on était avec un piano vraiment tango. On a demandé à des gens qui savent vraiment très bien jouer du tango de jouer avec nous, et notamment une arrangeuse de tango. En fait, on essaye quand même de bien faire découvrir la musique du pays dans lequel on essaye de faire voyager les gens. Voilà, pour pas faire n'importe quoi. Et puis nous, on s'amuse un petit peu avec ça. Après, on mélange, on met à notre sauce quand même pour que ce soit quand même les ogres, quoi.
Voilà, donc texte et musique, Made in Burguière ou
oui, texte
avec
et
les
musique.
Invités aussi de temps en temps, ça dépend.
De temps en temps avec les invités, ouais, c'est ça. Il y a un vrai échange. Par exemple, à chaque fois que c'est dans une langue étrangère, notamment il y a un passage en suédois, bon, bah, c'est pas nous forcément. À chaque fois, on demande quand même des petits moments de vrai voyage, même pour nous, quoi.
Bon, travailler en famille, ça ne doit pas toujours être simple, quand même, si.
En fait, dans la mesure où ça fait presque 30 ans, on se dit que ça a l'air simple, en fait.
Alors, la 16e chanson de l'album, c'est une reprise. Une reprise d'une chanson d'Anne Sylvestre. Pourquoi Anne Sylvestre et pourquoi cette chanson-là ?
Alors, pourquoi Anne Sylvestre ? Parce qu'en fait, c'est une femme qu'on adore et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutée et qu'on a eu la chance de rencontrer. Et d'ailleurs, elle a écrit, elle a chanté une chanson de Pitocha sur le deuxième opus. Et en fait, on a eu envie un jour de faire cette chanson, Une sorcière comme les autres, avec elle. Malheureusement, elle est décédée vraiment juste avant, quoi. Donc, on a demandé à ses filles et ses petites filles qu'on avait rencontrées de l'autorisation de la reprendre, donc sans elle. Mais on a eu envie de faire chanter nos enfants, notamment nos filles. Donc, c'est nos filles qui chantent cette chanson.
Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Les ogres de Barbac dans VMDN sur RFI à l'occasion de la sortie du nouvel album Pitocha et le vélo à propulsion phonique, qui est aussi le titre du conte qui constitue la deuxième partie de ce livre-disque, un conte musical forcément. C'est vous d'ailleurs qui l'avez écrit à Alice Burger et vous l'avez confié aux voix des comédiens Ariane Ascaride et Thomas VDB.
Avec ça, je pourrais aller au bout du monde.
Ce vélo avance grâce à l'énergie phonique. Les sons font vibrer la mécanique. Le vélo entre en harmonique et applique les principes de la dynamique. En bref, il se met à avancer dès qu'on lui chante ou qu'on lui joue une jolie mélodie. Et Pitocha s'y connaît en belle mélodie. Il en a plein ses tiroirs.
Bref, Alice Burger, ce vélo, c'est une invention qui va faire du bruit et qui va permettre à Pitocha de faire pas mal de chemin, pas mal de belles rencontres aussi. La paresseuse pressée, la chamelle un peu bossue, le poisson poissard et quelques autres. À partir de quels matériaux avez-vous écrit, avez-vous bâti ce conte ?
Alors déjà, l'objet principal, c'est le vélo. C'est vrai que Pitocha étant un grand voyageur, il lui faut quelque chose pour voyager parce qu'il doit aller conquérir le monde, on va dire, vraiment aller loin. Et du coup, l'air du temps, c'est plutôt le vélo. Et donc, je me suis imaginé un appareil comme ça qui pourrait avancer grâce au son que Pitocha produit.
C'est plus écolo que le charbon.
C'est plus écolo que le charbon, voilà, on va dire qu'on est dedans là. Et puis après, c'est les personnages que j'ai imaginés au fur et à mesure qui ont tous un petit quelque chose qui va pas, un petit hic, on va dire, un truc qui cloche quoi. Donc effectivement, l'oiseau il a le vertige, le poisson il a le mal de mer, etc.
C'est pas de chance.
Et pourtant, tous ensemble, ils vont chanter, faire avancer ce vélo et aller très très loin.
Oui, le message de l'album, aussi bien du conte d'ailleurs que des chansons qui le précèdent, c'est quoi? C'est l'acceptation des différences des autres, quoi.
Oui,
le
c'est
fait
ça,
qu'on peut être
fait,
amis,
exactement.
On peut s'aimer même si on n'est pas pareil.
On peut être tous différents et en même temps tous s'entendre à merveille et faire des choses magnifiques tous ensemble. Et voilà, c'est un message comme ça pour la jeunesse, en tout cas.
Oui, des messages qui sont toujours donnés de façon positive, de façon ludique. Quoi. Vous n'êtes pas du tout donnant de leçons. Quoi. On a plus l'impression, au contraire, que c'est par l'humour que vous faites passer
le
message.
Oui, c'est par l'humour. C'est pour ça aussi qu'on a appelé Thomas VDB pour faire passer un petit peu ce message aussi, donc qui fait quelques personnages, notamment la paresseuse pressée. Et oui, par l'humour, ça marche mieux quand même.
Bon, c'est pareil quand vous parlez de l'addiction aux écrans, parce qu'il y a une chanson là-dessus, hein, dans la première partie de l'album cette fois-ci. Et en fait, on a un peu l'impression que les parents n'ont pas vraiment de leçons à donner. Quoi.
Ah bah ça, c'est du vécu. Hein.
Ça, c'est du vécu.
Ouais, c'est totalement du vécu. C'est quand on gronde nos mômes parce qu'ils sont devant les écrans et qu'on a notre téléphone dans la main gauche et un ordinateur dans la main droite.
Alors, est-ce qu'il y aura des écrans dans le spectacle? Parce que ce message et ce disque, vous allez le porter, vous avez déjà commencé d'ailleurs, à le porter sur scène, sous chapiteau forcément?
Oui, sous chapiteau, évidemment.
Avec ou sans écran? Parce qu'aujourd'hui, pour intéresser les enfants, ça passe justement souvent par la caméra, non?
Pas d'écran.
Il n'y a pas d'écran.
Ouais, non, non. On va faire vraiment que de la musique et on va bien s'amuser quand même.
Alors, il y aura le conte et les chansons dans le spectacle, à quoi
non,
ça va ressembler ?
Ça va être un concert-spectacle. Donc, il n'y a pas d'histoire vraiment racontée, mais en tout cas, on emmène à travers plein de chansons qui ne sont pas que du Pitocha 4. Hein. C'est vraiment une sélection de plusieurs chansons des 4 albums. Et voilà, on emmène les gens voyager à travers plein de chansons et puis il y aura plein de surprises tout le temps.
Avec aussi des rencontres avec les scolaires, donc j'imagine que vous allez tourner dans un certain nombre d'établissements, c'est ça ?
Alors non, on ne va pas aller dans les établissements, c'est eux qui vont venir à nous.
Ils vont venir sous le chapiteau. Quoi, forcément, c'est important, donc le cadre effectivement. Est-ce qu'il y a une dimension éducative dans ce disque, Alice Burguière ?
Nous, on ne se veut pas tellement éducatif, en fait, on essaye plutôt d'amener des façons de voir les choses simplement comme ça, en s'amusant et puis en chantant et en faisant vraiment de la musique. Maintenant, si les instits veulent s'accaparer un peu l'objet et puis faire travailler sur 2-3 sujets, nous, ça nous fait toujours super plaisir.
Un mot du dessin pour terminer. On a évoqué la couverture avec le personnage de Pitocha et ce fameux vélo. Comment vous avez travaillé avec Eric Fleury, donc le dessinateur qui, finalement, c'est pas vraiment une bande dessinée, mais c'est aussi un livre illustré.
Oui, en fait, avec Eric, ça fait des années et des années qu'on travaille avec lui. Et c'est lui qui illustre Pitocha vraiment depuis le début. Enfin, quasiment depuis le début, on va dire. Et donc, en fait, au fur et à mesure, on lui envoie tout. On lui envoie l'histoire quand elle avance. On lui envoie chaque chanson une par une. Donc, il a carrément les maquettes. Comme ça, il peut commencer à réfléchir. Et après, il nous fait des propositions et on met tout ça en place.
Mais la dimension visuelle est aussi importante que la dimension purement phonique.
Oui, c'est ça. En fait, on essaye vraiment d'avoir un objet très beau à regarder. On aime bien, justement, avec cette petite mélodie qui fait tourner les pages aussi. C'est-à-dire que les gens, ils ont le livre dans les mains et ils le regardent et ils l'écoutent en même temps.
Les ogres de Barbac, Pitocha et le vélo à propulsion phonique est sorti chez Irfan et votre tournée, elle reprend à partir du mois d'avril, les 13, 14, 15 à Saint-Loup-sur-Aujon en Haute-Marne, les 4, 5 et 6 mai dans le Nord, à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, les 12, 13 et 14 mai à Ambérieu en Bugey dans l'Ain. Merci Alice Burguière.
Merci beaucoup.
On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement, on vit des choses qui flinguent, des choses qui sévissent à tout moment. Alors vivre son temps, c'est pas toujours tout rose apparemment. Alors on vit pourtant, on vit tout simplement. En vie c'est pas toujours dingue, mais c'est la vie, faut croire c'est suffisant. Envie de prendre ce flingue, de se le mettre entre deux tempes et pans. Alors on vit pourtant, envie de tout ça et ça se comprend. Alors on vit son temps, on vit tout simplement.
On rit et parfois c'est dingue, en chantant les douleurs qu'on ressent. On rit même si ça flingue, ça chasse nos douleurs et ça détend.
Alors on rit souvent, on pleure, on rit, on marche et l'on attend.
Alors en attendant, on vit tout simplement.
On vit des questions de dingue, on vit pourquoi, pour qui et pour autant.
On vit de questions qui flinguent, pour des questions parfois on vit de sang.
Alors on vit de temps, on vit de vivre cette vie pourtant. On vit d'être un enfant, on vit tout simplement. On vit de parfois c'est dingue, on vit de trois fois rien c'est suffisant. On vit de poser son flingue, de ne plus rien entendre assurément.
Des mots, des boniments, des histoires qui salissent et saignent à blanc.
Des légendes et du vent, on vit tout simplement.
On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement.
On vit des roses qui flinguent, des roses qui fleurissent à tout moment. Alors vivre son temps, alors on vit de tout, ça se comprend. Alors on vit son temps, on vit tout simplement.
On vit, c'était un jour dingue, on vit des éclairs, des larmes et du sang. Des enfants vidaient leurs flingues,
en criant que leur Dieu est le plus grand.
On vit tomber pourtant,
les bras ballants tombés dans les deux camps.
On vit tous ces enfants saignés du même sang.
On vit des histoires de dingue,
des histoires qui nous vident pleinement. On vit des choses qui flinguent,
des choses qui sévissent à tout moment.
alors envie pourtant.
Envie de voir cette vie qui t'attend, alors toi mon enfant,
va, vis tout simplement.
Histoire de dingue, extrait du nouvel album des Ogres de Barbac sur RFI.
Un café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec nous cette semaine, Marjorie Bertin, Laura Dulieu et un petit nouveau, Éric Chorin. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Alors si je vous dis figuro abstro, Marjorie et Éric, vous me répondez?
Abstraction? L'art
ouais,
abstrait?
Un artiste? Non, c'est compliqué. Hein. Oui, en tout cas, vous, Laura, justement, vous allez nous éclairer dans un instant puisque vous avez rencontré le créateur de ce mouvement artistique singulier. Il est sénégalo-français, il s'appelle Alioune Diagne et il expose actuellement en Belgique, à Bruxelles.
Exactement. Son expo, elle s'appelle Touki, ça veut dire voyage en Wolof. Et figuro abstro, c'est tout simplement peindre du concret avec de l'abstrait, je vous expliquerai.
Vous, Éric, vous avez tourné vos oreilles vers la Turquie.
Oui, pour un café turc gourmand avec la chanteuse Sedem Didici qui sort un nouvel album.
Mais pour commencer, direction le Québec. Donc on tourne les oreilles vraiment le coup, complètement à l'opposé avec une voix qui devrait vous dire quelque chose.
Je ferai mes devoirs quand vous ferez les vôtres. Si j'ai du retard, ben c'est pas de ma faute. Vous m'avez conçu avec un amour qui n'a pas survécu au quotidien lourd dans lequel je baigne depuis toute ma vie, sur lequel je règne un peu par dépit. Vous remettez à demain ce qu'il vous reste à faire. Séparez vos biens, sortez-moi de l'enfer. Je voudrais bien briller, mais je suis votre miroir. Puis vous faites porter reflet de désespoir.
Eh oui, cette voix, c'est celle de la québécoise Linda Lemay. La chanson s'intitule La clé de votre cage et elle est extraite de son nouvel album. Et vous m'expliquez, Marjorie, qu'elle se met ici dans la peau d'un enfant qui demande à ses parents de divorcer. C'est
oui,
original,
c'est
hein, mais oui, c'est vrai, c'est plutôt le contraire. Mais là, elle n'a rien perdu de sa verve ni de son inspiration, visiblement.
Oui, bah, en même temps, il valait mieux parce qu'elle s'est lancée dans un projet incroyable, un défi colossal, réaliser 11 albums en 1111 jours. Alors, il n'y a qu'un pas qui sort aujourd'hui, dont on vient d'entendre un extrait, c'est le 6e. Linda Lemay rêvait de se lancer dans un grand cycle depuis des années pour pouvoir écrire sur tout ce sur quoi elle avait envie d'écrire. C'était aussi une promesse qu'elle avait faite à son papa avant de mourir. Et la récurrence du chiffre 11, pour elle, elle est arrivée de façon un peu magique.
Ben, j'étais dans un petit café à côté de l'école que ma fille fréquentait à l'époque, ma plus jeune. J'avais son téléphone dans les mains et à un moment donné, ce jour-là, quand j'avais cette idée-là, le téléphone a sonné. Donc, il y avait une alarme à 11h11 que ma fille avait mise et c'était écrit « Make a wish ». Alors, j'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit « Ah oui, ben 11 albums, 11 chansons, ce serait à peu près ça que ça me prendrait. » Et depuis ce flash-là, cette vision-là que j'ai eue grâce au 11-11 de ma fille, je n'ai eu aucun doute que ce projet-là allait exister.
J'ai du silence, gros comme les cieux. J'en ai plein le ventre, j'en ai dans les yeux. J'ai du silence, comme du dégoût, un nœud dans ma langue qui m'attache les joues. J'ai du silence.
Alors continuons un petit peu de jouer avec les chiffres. Il n'y a qu'un pas, c'est le 6e album, je vous le disais. Alors le 6e, avant quoi, ça vous fait penser à quoi? Oui, mais ça vous fait penser à quoi?
Le sixième sens.
Non.
Bon.
Plus rigolo. Mais le septième ciel, voyons.
Le sixième avant le septième ciel, d'accord.
Mais
oui, il fallait prendre de la hauteur.
Et en fait, comme il n'y a qu'un pas, précède le septième album qui s'appellera Entre la flamme et la suie et qui sera consacré à l'amour. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de demander à Linda Lemay si elle avait pensé à ce septième ciel elle aussi.
c'est il n'y a qu'un pas, jusque peut-être au septième ciel. Quand je sors un album, moi, il faut que ça soit chaud, froid, il faut que ça rie, il faut que ça pleure, mais entre les deux, souvent, je vais pas m'attarder. Alors là, ça me donnait de l'espace pour offrir aux gens tout ça. Donc, il n'y a qu'un pas. L'album ensuite s'appelle Entre le rêve et le souvenir, ça, c'est le 8, et Entre la flamme et la Suisse, ça, c'est l'album d'amour. Donc, il y avait comme une espèce de suite dans les titres d'album. Il n'y a qu'un pas entre eux.
Vous voyez, hein. Mmh. Et alors, on éprouve effectivement beaucoup d'émotions très diverses dans cet album, notamment extrêmes, il faut bien le dire. Quand est-ce que dans la vie courante, vous avez envie, tous les trois, de tuer des gens, par exemple ?
Oula. Jamais, évidemment, dans les locaux des RFI.
Non, jamais.
Déjà, ça, c'est dans complètement exclu. Dans les transports.
Dans les transports. Ah, oui. Et bien, figurez-vous que Linda Lemay aussi, elle, c'est en conduisant, dans Tête de bouchon qu'elle avait enregistré en concert, elle menace un cycliste qui l'empêche de conduire.
Tu devrais faire attention sur ton squelette à deux roues. Je te préviens que j'ai le pare-choc qui te reluque la carcasse. Un petit coup de gaz et puis top. Je t'aurais pu devant ma face aller hop sur le terre-plein. Dans ton petit saut en spandex, il me semble que ça tirait bien. Un peu de foin entre les palettes. Pour les moustiques de ta race, y'a des routes plus confortables où tu serais plus à ta place. Y'a tel sol des pistes cyclables. Puis y'en a plein.
Les cyclistes ont souvent envie de tuer les automobilistes aussi.
Oui, aussi, je vois, Laura, que vous êtes plutôt dans le camp adverse. Bon, moi, je me suis plutôt identifiée à cette chanson. Il y a beaucoup question de violence sur ce disque, et notamment de violence sérieuse cette fois. La plume de la Québécoise, elle nous fait passer du rire aux larmes avec un morceau qui s'appelle Le Bijou et qui est un réquisitoire contre l'excision.
Pourtant, ses paroles vont faire une fête pour souligner le beau cérémonial. Car cette décision-là, elle se prend toute seule. Car cette excision-là est juste normale. Faut dire que ses parents-là ne font pas tout ce qu'ils veulent. En fait, ses parents-là suivent juste le bal.
Alors, il est aussi question de violence conjugale dans « Est-ce que c'est vrai qu'on change ?» et dans « Parle-moi ». Linda Lemay chante aussi la transidentité avec « Mon drame ». Particularité, elle l'interprète sur chacun des 11 albums en duo avec un chanteur différent. Alors ici, c'est, vous allez peut-être reconnaître.
Moi, je voulais pas être beau, je voulais être ravissante. Mais j'étais trop costaud pour ce que j'avais dans le ventre. Ma vie s'est trompée de peau, elle s'est trompée. J'ai pas le bon numéro, je suis pas la bonne personne.
Alors c'est qui ?
Le swing de San Severino.
Bravo.
Pour la guitare. Ouais.
Et alors justement, la question de la transidentité, c'est un thème dont on parle beaucoup, mais qui est rare, elle me le disait dans la chanson francophone. C'est vrai, je m'étais jamais fait la réflexion. Si ce n'est une chanson entière, ancienne, pardon. Petit quiz, c'est quoi la chanson en 1972, on n'était pas nés, Laura.
Moi non plus, hein, je précise, pardon. Hein,
où le chanteur se met dans la peau d'un travesti.
Ah bah Aznavour,
oui, c'est Charles Aznavour,
j'habite tout seul avec maman.
Dans un très vieil appartement,
rue
Sarrasate. Ouais. Et bah figurez-vous que Charles Aznavour, vous le saviez peut-être, c'était le mentor de Linda Lemay, elle l'aimait énormément. Et elle lui rend hommage avec cette chanson qui est certainement la plus belle du disque pour moi, qui s'appelle « L'éternel embouteillage ».
Ma vie est pleine de disparus, le ciel fourmille de mes repères. Comment ça se fait que je suis perdue et que je gaspille mes prières? Avec le nombre d'anges élus par sa majesté l'univers, je devrais me sentir un peu soutenue pendant le trajet qui me reste à faire. On nous dit de croire au soleil et de faire confiance aux étoiles. D'accord, mais là, tous mes pareils sont partis en voyage astral. J'aimerais bien vous dire que tout baigne, mais plus ça va et plus je galère. Pourquoi faut-il que l'on s'éteigne pour accéder à la lumière?
Cette chanson nostalgique lui a été inspirée par sa dernière rencontre avec Charles Aznavour au Québec à l'issue d'un de ses spectacles, où il a demandé à Linda Lemay ce qu'elle avait pensé d'une chanson qu'il chantait pour la première fois sur scène. Et lui, il était bouleversé parce que ses amis québécois de 30 ans, de 40, de 50 ans, ben, ils étaient tous morts. Il n'y avait plus que Linda qui est beaucoup plus jeune qui était là. Et elle est très attachée à ce thème.
Oui, à ce thème de la vieillesse. Hein. C'est vrai que je me souviens de sa chanson La Visite qui racontait le destin d'une dame en maison de retraite.
Oui, on le retrouve retrouve aussi sur Les fourmis s'en vont, où là, elle se met dans la place, à la place d'une maman et de son fils qui va la placer en maison de retraite. Avec l'humour ou l'émotion, Linda Lemay, c'est quelqu'un de toute façon qui réchauffe les cœurs, qui rapproche. Jusque dans sa chanson féministe sur ce disque aussi, Maintenant que les hommes, où elle énumère tout ce qui a changé depuis que vous vous êtes mis à être un petit peu plus féminin qu'avant.
Oui, on a bien besoin de se réchauffer en ce moment en France et sans doute encore plus au Québec d'ailleurs. Il n'y a qu'un pas, le nouvel album de Linda Lemay à découvrir. Merci beaucoup Marjorie. Sa dernière exposition à la Biennale de Dakar avait été très remarquée. Alioune Diagne expose donc en ce moment sa série Touki à Bruxelles, à la galerie Templon, jusqu'au 4 mars. Et vous êtes donc allée, Laura, à la rencontre de cet artiste à la veille de l'ouverture de l'exposition.
Oui, quand je suis arrivée, Alioune Diagne était encore en train de terminer les toutes dernières touches de l'immense toile qui accueille les visiteurs dans la galerie bruxelloise. Ces dernières touches, ce sont des petits signes, des tout petits signes abstraits par millions, on ne sait pas trop ce que c'est, et qui ensemble forment un dessin. Alioune Diagne explique qu'il écrit ou dessine ces signes de manière inconsciente, mais ils ont quand même une histoire qui date de 2013, l'année où il perd son grand-père.
On était très très proches tous les deux, donc il était maître coranique, donc il enseignait le Coran. Et quand il était décédé dans mon village au Sénégal, donc on me l'avait dit, donc je ne pouvais pas retourner à Dakar pour assister aux obsèques et tout. Et c'est réellement à partir de là que j'ai commencé à dessiner. En fait, il y a une sorte de transmission là-dessus. Et comme je ne savais pas écrire l'arabe, donc j'ai essayé de l'imiter, en fait. Et ces gestes qu'il faisait quand je dessinais, j'avais son visage, j'avais son image qui était tout le temps dans ma tête en train d'écrire l'arabe avec la plume, avec le stylo. Et je me suis dit, mais dis donc, je suis en train de faire, en fait, ce que mon grand-père faisait. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a beaucoup influencé, ce côté écriture, ce côté dessin dans mes tableaux.
Alors, que veulent dire ces signes? Eh bien, tout ce qu'on veut, le peintre veut y voir une sorte de langage universel.
Je laisse vraiment les gens donner leur propre définition de ces signes. J'ai exposé à Dakar, il y a des gens qui me disaient que c'était des écritures éthiopiennes. Donc, il y avait des Éthiopiens qui lisaient leur alphabet quand même dans les œuvres. Il y avait aussi des Arméniens aussi qu'ils apprenaient. Les gens qui parlent plutôt arabe aussi, les Arabes voyaient aussi de l'arabe à l'intérieur. Les enfants voient des dessins. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, que tous ces éléments-là abstraits est un langage universel. Donc, je laisse les gens les interpréter comme ils le sentent, en fait.
Alors ça, Laura, donc c'est ce que l'on voit quand on a le nez collé à la toile.
Et quand on fait quelques pas en arrière pour observer à nouveau ces très grandes toiles, ce sont en fait les couleurs qui laissent apparaître la forme figuro abstrait, voilà.
Ça y est.
On commence à comprendre. Et on est servi de ce côté-là, des couleurs très vives, très diverses, du jaune, du rouge, du bleu, du vert. J'ai même vu du rose fluo et du vert fluo. Alioune Diagne ne s'est mis aucune limite de ce côté-là et ses couleurs, elles servent le thème de l'exposition. Elle s'appelle, je vous le rappelle, Touki, ça veut dire voyage en Wolof, le voyage au sens large et il commence donc dès les tableaux du peintre.
L'expo s'appelle Touki, Touki veut dire voyage, mouvement en Wolof. Et quand on est dans cette exposition, on peut voyager dans l'univers, dans cet univers-là. Donc c'est-à-dire quand on est proche de mes tableaux, on voit tous ces ensembles d'unités que vous disiez que j'appelle les signes. Dès qu'on recule, ces signes se regroupent et donnent l'image. Et du coup, ça fait un voyage, en fait. Donc, en fait, devant mes tableaux, on voyage. On voyage en couleur, on voyage en détail, on voyage aussi sur les signes qui sont des signes inconscients.
Voyage dans la manière de peindre et puis voyage aussi, Laura, dans ce que représente l'artiste.
Il y a plein de voyages différents dans cette exposition. Par exemple, des scènes de marché, des portraits de femmes, les femmes qui se lèvent très tôt et qui marchent des kilomètres pour acheter et vendre leurs produits au marché. On retrouve aussi le voyage de la diaspora africaine à travers le monde. On découvre les barques des pêcheurs qui rentrent au port après avoir eux aussi voyagé à la recherche du poisson. Bref, toutes ces scènes représentent le voyage selon Alioune Diagne. Mais là encore, pas de hasard dans ce choix de thème. Chez l'artiste, le voyage a commencé à infuser très tôt alors qu'il était encore un enfant.
J'ai grandi dans une région sans connaître mon père. Donc à l'âge de 12 ans, j'avais décidé d'aller voir mon père pour la première fois. Donc de quitter ma ville natale pour aller à sa rencontre. Donc du coup, ce voyage m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais mon père en fait en vrai. C'était à peu près des centaines de kilomètres, je pense, ouais.
Alors, toutes ces toiles, elles sont exposées, on l'a dit, à la Galerie Templon de Bruxelles, exposition, lieu d'exposition très prestigieuse, hein, une mise en valeur qui dénote d'ailleurs avec la visibilité des artistes au Sénégal.
Oui, Alioune Diagne m'expliquait qu'il vient de Fatick, une région plutôt éloignée de Dakar, où l'accès à la culture est parfois compliqué. Donc, avant de démarrer ses études aux Beaux-Arts en 2008, il n'avait quasiment aucun moyen de découvrir ce monde-là. Et même à Dakar, l'artiste regrette un manque de considération des pouvoirs publics et privés pour les artistes locaux, alors que l'art visuel est essentiel pour continuer de construire ce patrimoine culturel et alimenter les archives d'un pays. Il y a encore beaucoup à faire selon Alioune Diagne.
C'est l'État qui devrait vraiment acheter toute la collection et prendre cette collection et la mettre dans un musée ou dans une galerie pour que les élèves puissent avoir accès à ça. Donc nous, on sommes des artistes engagés. On essaye de faire tout pour faire bouger les choses, mais derrière, on n'a pas de soutien. Tous artistes aimeraient que ces œuvres restent en Afrique, restent au pays, pour que les générations puissent voir l'histoire de leur propre civilisation. Mais on voit nettement que les gouvernements africains, ils sont pas du tout dans ça. Et ce qui fait que ce sont des collectionneurs étrangers qui viennent, qui achètent ces tableaux, et ces tableaux vont quitter. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est bien, mais comme ils n'achètent pas, comme ils n'accompagnent pas les artistes, ils ne gardent pas ces archives-là, je suis désolé, je suis en train de faire un travail, mais c'est un travail qui va être disparu aussi. Je pense qu'il est temps que nos gouvernements sachent que l'art visuel joue un rôle très important. Très, très important dans un pays ou dans un continent, parce que c'est nous qui rencontrons du moins l'histoire de notre pays. On parle des réalités, on parle des choses, on fait des éveils de conscience, on fait tout, on participe sur beaucoup de choses. Mais c'est dommage que l'art visuel n'est pas très, très, très bien vu en Afrique.
En attendant donc de pouvoir rejoindre les archives sénégalaises, les toiles d'Alioune Diagne sont à voir à la Galerie Templon à Bruxelles et c'est jusqu'au 25 février.
L'aura du lieu dans le Café Gourmand de Verviers.
Cette chanson, comment il est arrivé, j'ai pris ma guitare dans ma main, spontanée. Qu'elle est bénie, telle qu'il est menara, elle est bénie, qu'elle est bénie, verdim. Il est sorti tout d'un coup avec les textes, avec les musiques, et je me disais, waouh, c'était top.
Et cette voix qui nous raconte ainsi la naissance de la chanson Nara, c'est celle de la chanteuse turque Senem Diyici. Elle n'avait plus sorti d'album depuis 10 ans, Eric, et vous l'avez rencontrée il y a quelques jours avant son passage sur la scène du 360 Paris Music Factory le 30 janvier prochain dans le cadre du festival Au fil des voix.
Ouais, imaginez Senem Diyici lovée un peu comme un chat dans un accueillant fauteuil hein, pour nous recevoir. Elle est en chaussettes et avant le thé qui viendra en fin d'entretien, elle nous offre des loukoums en nous invitant à prendre celui à la rose, désolé, il n'y en a
quelle
plus pour
élégance.
Vous. Je l'ai mangé, hein, un délice qu'elle a ramené avec elle de Turquie.
Bon, mais elle n'a pas toujours vécu en Turquie, Senem Diyici. Elle a même passé une trentaine d'années en France.
Hein. Oui, de la fin des années 80 au début des années 2010, c'est en France qu'était sa vie de femme et d'artiste. Elle était l'une des voix les plus singulières de ce qu'on a appelé à l'époque la world music. Combinaison, hein, Jean-François, sans cesse renouvelée entre la musique turque traditionnelle et classique à laquelle elle a été formée pendant sa jeunesse et les harmonies et improvisations de la scène jazz-rock française la plus pointue de Takalar, sortie en 1989, jusqu'à ses albums live en 2005 et 2007, salués par la critique et les tournées s'enchaînent avec plus de 1500 concerts dans une trentaine de pays. Jusqu'à la fin de cette aventure humaine et musicale partagée avec le guitariste Alain Blessing, une fin douloureuse qui amène Senem Diyici a retourné en Turquie en 2012 pour se reconstruire. Et là encore, le chemin est long jusqu'à la naissance de son nouvel album aujourd'hui.
Nara, c'est cri, la cri d'une femme. En fait, tout ce qui est de moi depuis 10 ans, il est bien accumulé. On peut dire ça. Et puis, il a pris son forme comme une thérapie. Parce que c'était une grande déchirure pour moi quand j'ai quitté en France. J'étais mariée avec un Français musicien qui on vivait ensemble, on faisait notre voyage pendant 22 ans. J'ai quitté toutes ces choses-là. Et puis, voilà, c'est 10 ans après. Et moi, j'ai pris ma vie entièrement dans mes mains comme un musicien.
C'est Nam Diéji qui reprend donc sa vie en main comme un musicien, en renouant aussi avec ses racines, Eric.
Oui, c'est en Turquie, où elle pensait peut-être ne jamais revenir, malgré ses paradoxes, qu'elle les retrouve. Cette Turquie où elle est née en 53 d'un père azerbaïdjanais et d'une mère kurde. Très jeune, elle y a appris le chant classique turc, nourri de siècles de poésie ottomane, avant de la parcourir sac au dos pendant 2 ans quand elle avait la vingtaine, pour y collecter des centaines de chansons sur un gros magnétophone.
Avant, je disais que je suis citoyenne du monde. Je suis citoyenne du monde, vraiment. Mais bien sûr qu'on vient de quelque part. Et j'ai la chance d'être née en Turquie. Son histoire, et puis plusieurs civilisations qu'il est passé dessus, c'est la richesse que j'ai aujourd'hui au niveau de le rythme, au niveau de thème, au niveau de couleurs, différentes chansons qui nous amènent très très loin, presque primitives, mais très vivantes. C'est un mosaïque.
Elrin, à tes mains, en français, l'une des chansons de ce dernier album de Senem Diyeji.
Oui, une chanson qu'on peut en entendre près de la mer Noire, région célèbre pour sa culture du thé. Chanson qui évoque des femmes éprises de liberté et d'égalité avec les hommes, mais qui est tout à la fois une déclaration d'amour à un homme à qui a le goût du thé. Ce sont les mots de Senem Diyeji. Et dans son kaléidoscope, il y a aussi le retour du printemps célébré sur une danse gréco-turque typique de la mer Égée. Une femme qui danse et qui chante dans la tradition kurde de sa maman, ou l'évocation du jardin de son enfance et ses arbres fruitiers où elle gravait des cœurs. On l'a tous fait. Hein. Et celle aussi, cette évocation de la pleine lune à Karaburun, où Senem, ne trouvant pas le sommeil, mais l'inspiration, a carrément réveillé l'un de ses musiciens pour jouer jusqu'au lever du jour l'air qui lui était venu, là encore par magie, afin de ne pas l'oublier. Et un beau jour, Jean-François, au début de l'année 2020...
Non, vous n'allez quand même pas me dire que c'est encore un album issu du confinement.
Eh ben, si.
Un de plus.
Un de plus, Jean-François, en Turquie comme en France, hein, comme partout dans le monde, la pandémie et le confinement sont passés par là.
Quand il arrivait, fermeture vraiment, paf, c'est bon, tu peux pas sortir dehors. J'ai vu moi-même. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai porté, j'ai fait plein de petites musiques, il est devenu grande musique. J'ai vu la lumière que je peux faire un projet concret. Voilà. J'ai rempli l'intérieur de tout ce qui... Il y avait petite boîte qui était vide. Voilà. Il est plein de richesses que j'ai amenées aujourd'hui. Ce qui appartient à ma vie, sur ma vie. Mais il touche à tout le monde, chacun de nous.
Car à bientôt 70 ans, elle les aura en mars. Le plus grand bonheur de Senem Diyeji, un peu conteuse, un peu chamane, et qui voit sa voix comme une guérisseuse, c'est toujours d'être la passeuse de sa musique et de son monde intérieur.
Et le meilleur moyen de passer sa musique, c'est évidemment d'en jouer.
Et ça sera le cas dans 10 jours exactement, le 30 janvier, sur la scène du 360 Paris Music Factory, dans le cadre du festival Au fil des voix, où elle dévoilera au public parisien son album Nara. Il est sorti en France le vendredi 13 janvier. Un vendredi 13, c'est son choix chez Art Music. District Music, pardon.
Merci beaucoup Eric, merci également à Laura et Marjorie. Le journal dans un instant sur RFI à lundi pour évoquer un film musical aussi, le film Divertimento qui sort mercredi prochain, et vous m'en direz des nouvelles.